Alors, merci beaucoup, Daniel Handler. Alors, nous allons effectivement poursuivre avec une table ronde sur les usages et les enjeux pédagogiques de l'intelligence artificielle, et notamment en matière d'éducation aux médias et l'information. Donc, cette table ronde va être animée par Louise Touré, qui est journaliste, productrice radio spécialisée dans les questions d'éducation. Et nous avons la chance d'avoir trois invités experts dans ces domaines, donc à la fois en formation, en éducation, en journalisme et en éducation aux médias et à l'information. Et je laisse Louise les présenter. Merci.
Merci Juliette. Alors, je crois que je n'ai pas resté au pupitre pendant tout le moment, mais c'était une occasion. Puis comme ça, je vous vois bien. Donc moi, je suis journaliste. Je suis spécialiste de l'éducation, mais pas du tout de l'intelligence artificielle. Donc, je vais aussi apprendre des choses et j'en ai appris dans le moment qui a précédé. On va faire un ou deux tours de table et on va passer assez vite aux questions. Donc, commencer à réfléchir aux questions parce que je pense qu'en tant que professionnel, vous en avez peut-être des plus intéressantes que les miennes, même si j'en ai évidemment plein parce que tout le monde s'en pose, et parce que en tant que journaliste spécialisée dans l'éducation, évidemment, j'ai déjà pu produire des émissions, je travaille à France Culture, sur le sujet. Donc les experts, je vous invite à venir vous asseoir, alors c'est pas vraiment autour, mais en rang d'oignon à la table. Je vais me mettre sur le côté avec le micro bleu. Et donc, les intervenants sont Valentine Fével-Capoyan, qui est enseignante et formatrice en éducation aux médias et à l'information numérique, éducative, culture numérique, littératie numérique. On va peut-être réexpliquer de quoi il s'agit. À l'Université Lyon 1, parce qu'on va beaucoup parler d'éducation aux médias, également avec Étienne Milien, qui est journaliste et directeur de l'APEM, qui est l'Association pour l'éducation aux médias. Avec nous également, plus sur le versant pédagogique, Romain Vanoudesden, qui est directeur à la direction recherche et développement sur les usages du numérique éducatif du réseau Canopé. Est-ce que je parlais suffisamment dans le micro en tournant la tête? C'est pas très professionnel alors que je fais de la radio. Et Canopé, comme vous le savez, c'est une plateforme de ressources pour les enseignants qui permet de se former, qui est intéressante pour tout le monde. Là, j'ai fait un petit pas chassé. Et merci, voilà, ça marche très bien. Donc, merci d'être avec nous. Je crois qu'on a pas mal d'enjeux à éclairer sur l'éducation aux médias et l'intelligence artificielle, des enjeux dont on va voir qu'ils ne sont pas complètement nouveaux, mais qui prolongent une réflexion qu'on mène depuis longtemps dans l'éducation avec les internets, la recherche sur les réseaux. Mais je voulais commencer avec Romain Vanoudesden. Ça tombe bien, vous êtes juste à côté de moi. Déjà, l'intelligence artificielle dans l'éducation, ce n'est pas vraiment une nouveauté.
Ça marche. Bonjour à tous. En effet, au même titre que Daniel Handler le disait, l'IA, ce n'est pas du tout une nouveauté. L'IA dans l'éducation, alors c'est pas aussi ancien que les années 50, mais on est déjà utilisateur dans l'éducation nationale de certains outils, certains logiciels qui ont connu presque un âge d'or au moment du Covid. Je pense, alors je ne sais pas si je suis autorisé à donner des noms.
Moi, je pense que oui.
Allez, alors on y va. Je pense en particulier à des programmes donc soutenus par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et en particulier de la direction numérique à l'éducation, dans le cadre de ce qu'ils avaient appelé un P2IA, donc presque un jeu de mots entre le PIA, les programmes d'investissement l'IA, l'intelligence artificielle, donc un programme qui avait demandé et qui a financé des programmes de recherche et de développement autour du cycle 2. Donc on est au début de l'école élémentaire, sur la lecture et sur les mathématiques. Alors j'ai en tête le nom de Lalilo qui a été qui a bénéficié véritablement de la période Covid à ce moment-là, parce que ça a été très utilisé et avec des effets véritablement intéressants auprès des élèves, parce qu'à ce moment-là, évidemment, les enseignants n'étaient pas avec les élèves, et ça a permis une véritable différenciation, et ça, c'est un des avantages véritablement des IA qui sont propulsés dans l'éducation, c'est de pouvoir rendre possible de donner à un tel l'outil ou l'exercice nécessaire à ce moment-là et à tel autre, évidemment, un autre outil qui lui servira. Et c'est véritablement à ce niveau-là où on a connu, donc, à peu près au début, si je me réfère à ce que Daniel Handler disait, au début des créations des LLM, l'âge d'or finalement de l'IA en éducation, c'était peut-être à ce moment-là. Et puis évidemment maintenant avec les IA génératives, mais ça c'est peut-être pour plus tard.
Bon, on va y revenir aux IA génératives parce qu'elles intéressent beaucoup les élèves. J'ai quand même une deuxième question parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours cet enjeu qui revient d'éduquer à ce que c'est que l'intelligence artificielle. Quels sont ces enjeux concernant déjà, non pas les élèves seulement, mais aussi ceux qui enseignent, ce que vous travaillez à Canopé, et je pense qu'on a tous besoin, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de comprendre en fait de quoi on parle quand on prononce ces deux mots, intelligence artificielle, et ce qu'il y a un peu derrière, et les adultes en première instance, parce que pour pouvoir en parler et éduquer, il faut avoir aussi un minimum de savoir. Est-ce que ces savoirs circulent bien dans l'institution scolaire, par exemple ?
Il faudrait inviter Daniel Handler dans tous les établissements scolaires. Je pense que ce sera très bien. Je sais pas, ça vous fait un petit programme pour les années à venir. Il faut commencer en effet par s'en emparer. Il faut être curieux aussi. Il ne faut pas attendre que Daniel Handler arrive dans un établissement. Il faut être curieux. De mon point de vue, il ne faut pas hésiter à aller tester pour le critiquer, pour critiquer tout ce qui peut être disponible et comprendre pourquoi ça m'est donné gratuitement ou ça m'est disponible, parce que ça, c'est évidemment des enjeux importants et on a un marché derrière, il faut pas se cacher, et encore une fois vous le disiez monsieur Handler, donc tout ça c'est important, mais il faut avoir ce temps là et donc là en effet Réseau Canopé, mais aussi tout le ministère de l'Éducation nationale et en particulier les délégués académiques au numérique éducatif dans chacun des rectorats accompagnent les enseignants et nous de notre côté on met en disposition quelques ressources d'auto-formation ou d'information, d'acculturation à ces enjeux et à ces questionnements qui permettent ensuite de jouer avec des IA, de jouer en particulier avec des LLM, mais aussi avec, par exemple, on peut très bien, pour prendre l'exemple des chats et des chiens et de la reconnaissance d'images, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire et faire développer par des élèves de cycle 3 par exemple des programmes de cet ordre-là assez facilement.
Cycle 3, c'est la fin de l'élémentaire.
C'est ça, oui.
C'est vraiment un peu du jargon d'enseignant, mais en gros, on parle des CM, CM1, CM2 et peut-être la classe d'avant. Parce que, en fait, il n'y a que dans l'éducation nationale qu'on utilise cycle 1, cycle 2. Cycle 3, cycle 4. Les enjeux pédagogiques sont extrêmement importants. Alors, pour les adultes, ce sont presque des enjeux culturels, d'appréhension du monde dans lequel nous vivons, qui est donc un monde numérique. Et pour la transmission, alors, ces enjeux pédagogiques, comment on en discute dans les établissements ? On sait que ce sont beaucoup les professeurs documentalistes qui sont dans les CDI, les bibliothèques, donc des collèges par exemple qui sont en charge de ça, mais pas seulement. Valentine Favel-Capoyan, j'en viens à vous pour ces enjeux pédagogiques, comment ils se dessinent aujourd'hui à l'école.
Alors, comment ils se dessinent à l'école, je dirais que pour l'instant tout ça est très informel, ça veut dire que concrètement, il n'y a pas effectivement d'accompagnement, de formation précis avec des programmes où on apprend aux enseignants à servir de l'IA, ni en formation initiale et à peine en formation continue. Hein. On est plutôt dans la phase où les enseignants, ils sont comme les personnels de bibliothèque, ça veut dire que voilà, ils découvrent des usages et ils essayent de s'adapter en se posant la question de, des enjeux et surtout de comment ils vont se placer par rapport à tout ça. Alors, la spécificité de l'enseignant, c'est que ça le... comme les personnels de bibliothèque, hein, ça veut dire que ça l'impacte à la fois dans son métier, puisqu'en fait, on peut se servir de l'IA pour faire cours, faire la classe, hein, c'est-à-dire préparer, par exemple, son enseignement, ou faire des quiz, ou faire des corrections automatiques, enfin, etc. Donc, s'en servir en tant que côté préparation. Et puis, évidemment, on peut s'en servir pour de la pédagogie, par exemple, pour faire des contenus différenciés pour les élèves. Et puis, il y a effectivement un troisième axe, hein, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la question de l'éducation média à l'information. Puisque telle qu'elle est conçue dans le système éducatif français, c'est une éducation qui est donc sur toutes les formes de médias et toutes les formes d'information, dont celle de la donnée. Donc ça fait un petit peu, ça fait déjà un moment hein, que entre autres les professeurs documentalistes, mais pas que, abordent la question de la donnée. Ça veut dire comment elles sont récupérées, à quoi elles servent, quelle économie il y a derrière, etc., etc. Après, expliquer effectivement l'approche historique qui a été faite là, par exemple aujourd'hui, c'est des choses qui se font aussi dans le système éducatif en seconde, dans le cadre de la SNT. Donc il y a ces aspects-là. Après, il y a vraiment essayer d'intégrer la question des usages des élèves dans le fait de faire leurs devoirs et d'apprendre, et puis d'essayer de travailler avec eux les compétences hein, qui sont derrière là. Et là, on est vraiment au tout début de ça. Hein, quand même.
Alors, évidemment, on va parler de l'éducation aux médias, mais il y a une question que je me pose très sincèrement, et peut-être on peut la poser à vous deux. Vous inquiétez pas, Étienne, on va venir à vous dans un instant. C'est que sur les usages de l'informatique, on a vu que les enseignants ont été assez précurseurs par rapport à d'autres professions parce que on a eu des salles informatiques dans les établissements dans les années 80, parce qu'ils ont eu recours à des outils informatiques pour préparer leurs cours, par exemple, ça a facilité, et vous venez de le dire, pour l'IA, il y a un certain nombre de professeurs qui le font, alors peut-être pas tous les professeurs, mais c'est mieux installé dans la profession qu'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les personnels de bibliothèque. Est-ce que vous pensez que ce côté apprentissage un peu informel de la profession, et vous m'avez mis un peu sur la piste de cette question, va compter beaucoup dans la manière dont va s'organiser à la fois la transmission des connaissances la sensibilisation et l'acculturation à ce que c'est que l'intelligence artificielle à l'école par des enseignants qui se seront auto-formés, ou est-ce que vous pensez qu'en fait ça doit être plus formalisé pour être plus efficace comme apprentissage? Romain Van Oudesden. J'espère que ma question n'est pas...
Non, tout va bien. Moi, je dirais, voilà, c'est plus personnellement, hein, mais je dirais qu'on a besoin de la formaliser aussi et surtout pour s'assurer qu'une culture numérique, un socle commun de culture numérique soit donné aux élèves et aux futurs citoyens que sont les élèves. On a le risque, vous l'avez dit, il y a des enseignants, mais je ne suis pas persuadé qu'ils soient très nombreux. Hein. On aurait le risque d'avoir un gros trou dans la raquette, il me semble, s'il n'y avait pas un véritable engagement du ministère par des programmes à venir, je le souhaite en tout cas, qui prennent véritablement en compte ces questions-là et les questions de MI de manière globale, encore plus appuyées que ce qui est né actuellement.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Valentine ?
Non, juste rajouter qu'encore une fois, il y a un constat. Ça veut dire qu'il y a des enseignants, très concrètement, qui se retrouvent face à des pratiques d'élèves et qu'il faut bien qu'ils en fassent quelque chose, si vous voulez. Ça, c'est, voilà. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas experts sur la question et qu'ils ne sont pas allés jouer avec l'IA, à un moment donné, et avec ChatGPT, très concrètement, ils se retrouvent avec des élèves qui vont leur fournir, par exemple, des devoirs, qui vont être totalement produits avec ChatGPT. ChatGPT. Alors, c'est pas difficile hein, de les repérer. Hein. C'est extrêmement facile. Hein, niveau de langage, concept manier. Enfin, bref, c'est pas besoin de le passer dans un logiciel pour se rendre compte que c'est pas l'élève qui l'a produit. Donc, ça les bouscule. Ça les oblige, du coup, à se poser la question de l'évaluation, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Et puis, surtout, il y a quelque chose sur lequel les professeurs documentalistes insistent depuis des années et qui me semble, moi, au cœur de ces problématiques avec l'IA, c'est la question de, OK, le résultat final d'une recherche, il est important, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est la question de la démarche. Et si on axe la question de la recherche documentaire ou d'information, non plus sur le résultat final, d'ailleurs le joli exposé, hein, mais ça fait des années que les professeurs documentalistes le disent, hein. Et voilà, si l'idée c'est juste d'avoir un diaporama ou un exposé, ça, n'importe quelle machine, effectivement, ChatGPT peut très bien le faire. Par contre, la question de la démarche, donc là en l'occurrence ce serait les prompts utilisés, etc., peut faire par étapes, et tout le processus de construction et de recherche, si les formalités et qui compte quasi autant dans la question de l'évaluation que le résultat final, là, ça devient intéressant, d'autant que là, on travaille des vraies compétences en littératie médiatique.
Voilà, ça oblige à se poser des questions pédagogiques dures, dans le sens où elles sont extrêmement centrales. Oui. C'est le noyau, qu'est-ce que ça veut dire chercher? Qu'est-ce que ça veut dire chercher une information? Ou qu'est-ce que ça veut dire écrire? Parce que finalement, si on doit écrire, produire quelque chose soi-même, c'est pas juste pour faire un texte, c'est pour le faire soi, et c'est par là qu'on apprend quelque chose, et ça n'intéresse pas le professeur d'avoir un texte bien écrit. Mais ça, c'est difficile à dire. Enfin, ça intéresse le professeur si ce texte est écrit vraiment par l'élève. Et je vous garantis que pour avoir enseigné le français, c'est pas si simple de faire comprendre ça à des élèves. Mais on arrive évidemment davantage dans cette discussion sur l'éducation aux médias qui nous intéresse aujourd'hui. Étienne Millien, bah, tout simplement, il y a de nouveaux enjeux. Enfin, est-ce qu'ils sont si nouveaux d'ailleurs pour l'éducation aux médias avec l'intelligence artificielle? Et comment vous les définissez, ces enjeux?
Bonjour à tous, merci. La question de la définition, elle est centrale, et ce que vous venez de dire aussi d'ailleurs est hyper intéressant sur l'enseignement de la démarche et de l'usage autour des outils, puisque les outils, on ne les maîtrise pas, et je parle de manière très globale. Chez les adolescents par exemple, personne il y a 4-5 ans aurait pu dire que TikTok allait dépasser Instagram, même que Instagram allait devenir le numéro 1 des moyens d'accès au contenu d'information. Donc là aussi il faut rester très très humble, et on est tout petit encore dans notre caverne face à l'IA. Pour revenir plus précisément à la question, dans les médias, l'IA, comme dans l'éducation, existe et est utilisée depuis à peu près une dizaine d'années. On s'en servait par exemple pour les résultats d'élections. Dans votre journal du lundi, après une élection le dimanche, vous retrouviez le compte-rendu avec les pourcentages de par parti, en fonction des élections, etc. Ça, c'était généré par de l'intelligence artificielle capable de traiter beaucoup de données en une seule fois. Aujourd'hui, vous avez du traitement de texte, une entreprise qui s'appelle Grammarly, je ne sais pas si vous connaissez, aux États-Unis, qui corrige des textes, etc., qui aujourd'hui propose à ses usagers de changer le ton et l'intonation d'un email, d'un texte qu'on a écrit. Ce que vous venez de dire, Louise, expliquer qu'est-ce que c'est qu'écrire aujourd'hui, voilà, la question est là. Pour nous, journalistes, et donc dans l'éducation aux médias, sur les contenus, il y a un champ qui est gigantesque, d'amélioration, de perfectionnement, de développement de choses. Alors, on peut rentrer dans le détail si vous voulez. Et il y a un champ en termes d'éducation aux médias dans lequel, moi, je ne veux pas rentrer, qui est celui des fausses informations. Et là, je tire un grand trait. Les fausses informations ne sont pas des informations. Les journalistes, nous, on travaille l'information. Si je vous dis que ça, c'est une pomme, ça, c'est une poire. Ah non, c'est une fausse pomme. Non, c'est pas une pomme, c'est une poire. C'est des choses différentes. Les fausses informations n'ont rien à voir avec les informations. Elles en ont le goût, la couleur, l'odeur, etc. L'intelligence artificielle va permettre peut-être de développer des contenus qui ressemblent à l'information. L'expertise en éducation aux médias, l'information, elle est sur... Là, en l'occurrence, sur notre sujet, sur ce qu'on peut en faire en termes de création de contenu, ou de diffusion de contenu ou de production de contenu.
Alors, dans cette intelligence, enfin, pour parler de l'intelligence artificielle, mais oula, oui, Je vais me mettre bien face à mon micro, mais c'est difficile de ne pas regarder les gens à qui je parle. Mais je vais regarder vous, comme ça vous m'entendrez mieux. Pour sensibiliser les élèves à l'univers du numérique, ça fait longtemps qu'on leur parle des algorithmes, par exemple. Je pense qu'il y a une autre dimension qui est très intéressante, c'est la dimension économique. Est-ce que vous pensez, c'est une vraie question, Étienne Milin, que c'est une pédagogie qui marche, qui fonctionne pour sensibiliser les élèves, puisque vous en voyez pas mal hein, en éducation aux médias, à ce que aujourd'hui le numérique produit sur l'information? Parce que cette question, elle se pose encore plus hein, pour l'intelligence artificielle, évidemment.
Ouais. Alors, l'intelligence artificielle, dans le sens où elle va changer les modes de production, de diffusion de l'information. Je vous donne quelques exemples pour que je comprenne tous de la même chose. Aujourd'hui, si vous prenez une actualité, rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes sort tous les ans, il fait 572 pages, tout le monde l'a lu, 8 mégas de données, c'est incompréhensible comme document en tant que tel, en tant que bloc. Je l'ai mis dans le chat GPT l'autre jour, première réponse, on ne peut pas vous informer parce qu'en fait, il faut remonter à janvier 2022 dans notre processus d'analyse des données. Donc, version payante de ChatGPT, je lui ai demandé, donne-moi les trois informations les plus surprenantes du dernier rapport de la Cour des comptes. Puis j'ai demandé la même chose à Bard, donc l'outil d'intelligence artificielle de Google, et j'ai des choses différentes qui ressortent. Donc on fait plein de choses nouvelles, mais qui ont besoin, comme on l'a expliqué, comme l'a expliqué tout à l'heure M. Andler, d'une intervention humaine pour traiter le contenu. Donc le travail du journaliste, il ne va pas être de se taper les 572 pages en lecture directement, il peut s'appuyer sur des outils pour aller chercher des contenus et produire quelque chose de différent, peut-être plus performant, peut-être plus rapide, peut-être plus intéressant, peut-être plus facile à trouver, puisque ça permet par exemple de magnifier, de maximiser le SEO, la diffusion dans les outils de recherche. Mais encore une fois, il faut être très humble par rapport à ça. Et tout ça, ça a des conséquences économiques. Ça veut dire, est-ce qu'on emploie beaucoup de journalistes? Est-ce qu'on doit expliquer aussi comment on travaille aux élèves en termes d'éducation aux médias? Aujourd'hui, on tâtonne là-dessus. Et quand on voit que, dès cette semaine, les outils d'intelligence artificielle de modèles de langage, d'IA générative, sont intégrés dans les champs de recherche, dans les champs physiques, des outils de recherche sur Internet, une intégration verticale de l'intelligence artificielle, ça va être très 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 compliqué d'expliquer aux élèves toutes les phases qui font qu'aujourd'hui, les médias vont devoir fonctionner un petit peu différemment. Mais, pour faire simple, parce que je rentre vraiment dans les détails, les journalistes ne seront pas remplacés par l'IA, les journalistes qui utilisent l'IA vont certainement remplacer les journalistes qui ne l'utilisent pas. Ça devient, tout ça pour dire que c'est devenu un truc indispensable qui nous permet de faire plein de choses bien, mieux, parfois, mais qui repose toujours sur le savoir-faire, le côté artisanal de la méthode humaine, qui est la même chose que d'avoir une personne ennemie qui conduit une voiture autonome à distance. Enfin, c'est un peu le même principe. On a encore besoin de contrôler cette machine. Et économiquement, pour répondre à la question, ça a un impact. C'est-à-dire qu'on a des outils super, mais on n'est pas capable de les faire marcher. Il y a eu un exemple aux États-Unis avec le groupe Gannett qui a racheté toute la presse régionale, enfin une grande partie de la presse régionale, qui a essayé d'automatiser par la machine le traitement de l'actualité sportive locale des collèges, et qui a été une catastrophe qui a dû retirer immédiatement, puisqu'on avait des verbes qui n'étaient pas du tout appliqués, équipe A au lieu du nom de l'équipe. Enfin bref, la machine n'était pas capable de créer du contenu aujourd'hui de manière satisfaisante pour pouvoir enlever des journalistes là où on en a encore besoin.
Alors, moi, ce que j'ai souvent entendu de la part d'experts de l'intelligence artificielle, y compris ceux que j'ai pu interviewer, c'est que finalement, l'attrait de ces outils, c'est la facilité. Et ce qui explique leur succès, c'est la paresse humaine. Une paresse qu'on a tous, moi je suis pas de religion, donc c'est pas un péché pour moi, et de toute façon on sait bien que pour les adultes, mais aussi donc pour les élèves, il y a une tentation à aller vers la réponse la plus simple et la plus facile, et ça c'est, je pense, quelque chose qui est un grand problème pour l'éducation aux médias, c'est-à-dire la première réponse, c'est pas forcément la réponse la plus intéressante, la deuxième non plus. Comment on va à la deuxième page des propositions du moteur de recherche? Et pareil pour les articles de presse, puisqu'on sait bien que quand on navigue un peu, et moi je vois des adolescents qui sont sur Instagram, sur TikTok et même sur Twitter, c'est pas forcément vers les ressources de la presse fabriquée par des journalistes qu'on tombe en premier, et on ne fait pas forcément la différence entre la presse traditionnelle et d'autres contenus qui peuvent tout à fait être des contenus de reprise de cette presse traditionnelle, parce qu'il y a plein de gens qui s'approprient ou qui recyclent le travail des journalistes, parce que c'est extrêmement facile de le faire, y compris grâce à l'intelligence artificielle. Étienne Millard.
Je ne veux pas monopoliser la parole.
Non, mais je vais poser la question à tout le monde sur la presse.
Non, mais plus on avance sur ce sujet, en fait, j'ai l'impression, mais peut-être que ce n'est qu'une impression personnelle, mais plus on avance sur ce sujet et plus les compétences techniques se développent et plus le champ des possibles s'ouvre, plus j'ai l'impression qu'on doit revenir aux choses les plus simples et les plus basiques. On est incapable de savoir quel sera l'outil qui sera le plus à la mode, le plus utilisé, le plus performant dans 2 ans. En revanche, être capable aujourd'hui d'aiguiller des populations qui fréquentent les bibliothèques, les établissements scolaires vers des ressources légitimes, je ne dis pas fiable parce qu'on peut se tromper aussi. Ça fait... Le journalisme, ce n'est pas une science, c'est un artisanat. On peut se gourer. Mais être capable de leur dire, allez, reprenez le réflexe d'aller vers le journal, la chaîne de radio, le site de la chaîne de radio, etc., vers le créateur du contenu. Donc, ce que vous disiez, madame, sur la démarche de recherche, d'être capable aujourd'hui de faire de la recherche véritablement plutôt que d'aller vers l'évidence parce que la machine nous amène sans des critères toujours très sains, et complexifie la tâche de la recherche, c'est peut-être vers ça qu'on doit revenir. Mais déjà, si on arrive à faire ça très correctement en éducation média, on a déjà gagné. Mais vraiment, très simple. Très, très simple.
Parce que, bon, il y a quand même derrière comme un fond aussi médiatique et dans la période actuelle, je crois que ça compte énormément. C'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de mal à différencier... pas forcément vous ou moi, mais dans la société en général, l'opinion et l'information. C'est déjà une première barrière et qui, je pense, est un grand sujet pour l'éducation aux médias. J'avais dit que je faisais tourner la question, donc Valentine Favel-Capoyan, sur finalement la facilitation de la recherche qui peut être un outil... Voilà, hyper intéressant pour la recherche documentaire et l'améliorer, et en même temps, qui peut faire écran à l'élève sur ce que c'est que vraiment chercher quelque chose qui va l'intéresser lui, parce que pour chercher, il faut apprendre à chercher la ressource qui nous intéresse, et pas seulement recopier la question qui nous a été posée par un enseignant, par exemple.
Oui, alors du coup, ça, c'est pas l'IA ne révolutionne rien à ce niveau-là, hein, puisque dès l'avènement des moteurs de recherche, les élèves sont devenus experts dans l'art du copier-coller. Donc, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Je pense que ça nous rend, nous, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, enseignants plus exigeants. Alors, j'ai parlé de la question de l'évaluation, mais sur la question de... Quand vous parliez de l'économie, etc., en fait, en gros, c'est comment... on peut les aider à avoir un esprit critique face à cette information. Alors, bien sûr, il y a de la méthode. Il y a on compare, on vérifie, etc., qui sont globalement absolument impraticables quand on est dans une recherche quotidienne et ponctuelle. Enfin, je veux dire, même nous, on ne le fait pas. Alors, évidemment, quand on est dans un... On a le temps d'une recherche un peu approfondie, et là je parle plutôt du lycée, voire du supérieur, où il y a des enjeux de véracité et de voilà. Donc là on va effectivement vraiment mettre en œuvre toute cette démarche qu'on connaît bien, de comparer, vérifier, voir qui est l'auteur, etc. Mais au quotidien, même nous, enfin, on va rarement vérifier la question de l'auteur. Alors quand ChatGPT vous donne une belle réponse avec des ressources, bien sûr, on nous a parlé du fait qu'il y avait des affabulations possibles, etc. Ou alors, comme vous l'avez dit, on voit bien qu'il y a des questions de biais, hein, tous les biais d'interprétation qui sont là. Donc, l'élève, évidemment, il ne va pas aller vérifier, faire un travail colossal de croisement de sources pour chacune de ces informations. Peut-être que dans les choses qu'on pourrait, sur lesquelles on pourrait les faire réfléchir, moi, en tout cas, c'est, pour travailler depuis longtemps sur le sujet, je me dis que c'est quelque chose d'intéressant, c'est la question de la place des émotions. Parce que c'est vrai que je trouve que ChatGPT a ça qu'il, j'allais dire, que ce service... Hein, vous parle, interpelle. Il y a quelque chose de, il y a une proximité qui est faite dans la réponse, qui du coup brouille encore plus la question de la distance et de l'esprit critique. Et globalement, hein, c'est aussi le fonctionnement de tous les réseaux sociaux depuis un moment, de fonctionner sur la question des émotions, la gestion des émotions. Et peut-être que ben, là, on peut accompagner les élèves à prendre conscience justement de qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. Et puis peut-être de ce fait, de se poser la question de pourquoi cette information, elle est là, pourquoi elle émerge, et qu'est-ce qu'elle représente pour les personnes qui l'ont diffusée, etc., etc. Et commencer à avoir un petit peu d'esprit critique dans ce monde de l'émotion, je dirais.
Elle est très intéressante, cette formulation, se poser la question. Parce que justement, se poser la question, c'est tout ce que l'univers numérique cherche à nous éviter de faire, puisque on n'est pas censé s'interroger longtemps, on est censé obtenir des réponses très rapides, ce qui est presque le contraire de l'éducation. Est-ce que ça nécessite d'adapter son discours pédagogique, Romain Van Oudesden, sur expliquer aux élèves en fait ce qu'on attend d'eux comme effort aussi, par exemple, en termes de recherche, et qu'il faut intérioriser de la part des élèves. Et je crois que c'est très compliqué, ça pose aussi plein de questions d'inégalité sociale, hein, devant ce que c'est que pouvoir faire des recherches, circuler dans les savoirs, parce qu'on n'est pas tous armés de la même façon, les enfants ne sont pas tous armés de la même façon. Et bref, pour les enseignants, ces enjeux-là doivent, et je le répète, sont aussi des enjeux de formation.
Ben, oui, tout à fait. Je pense qu'il est, nécessaire alors, d'accompagner les élèves et donc d'accompagner aussi les enseignants dans cette partie de formation initiale et formation continue sur la façon dont on doit appréhender, dont on peut appréhender tout outil numérique. Hein, ça va bien au-delà de juste la question de ChatGPT et de tous ses copains d'IA générative, sur la question de toutes les questions éthiques et philosophiques que ces outils viennent interroger, viennent remettre au devant de la scène. Ouais, je voulais revenir sur la question de la paresse, parce que sur cette question...
C'était un peu le prolongement.
Mais le terme paresse me paraît intéressant, parce que il a été prouvé dans plusieurs études que l'introduction d'outils numériques, de technologies numériques dans la pratique des enseignants, c'est loin d'être une question de paresse. Au contraire,
en fait,
c'est extrêmement chronophage. Et il y a un temps de préparation beaucoup plus important que de faire le truc qu'on a l'habitude de faire. Et donc, finalement, c'est là où les IA génératives, il y a quelque chose d'intéressant. Et je voudrais recroiser ce que vous abordiez sur la question de la démarche réflexive, que ce soit celle de l'élève ou celle de l'enseignant au moment où il est en train de préparer son cours et il se dit « Tiens, je vais aller demander à ChatGPT ce qu'il en pense » ou encore une fois à une autre IA générative. C'est comment il peut croiser ces informations-là avec sa propre expérience, et ça doit rentrer finalement dans, non pas le corpus de l'IA, mais dans l'échange qu'il doit mener avec l'IA. Il ne faut jamais prendre, en tout cas de ma propre pratique, des IA génératives, on ne prend jamais comme argent comptant la première des réponses de l'IA. Et en fait, moi, la façon dont je l'utilise de plus en plus et dont on prône une utilisation auprès des enseignants et de fait auprès des élèves, c'est d'utiliser l'IA comme étant, alors on a utilisé le terme de sparring partner cognitif, c'est-à-dire il va me pousser dans mes retranchements parce qu'il va m'apporter des nouvelles infos et parce qu'il va me questionner ou il va mettre le point sur tel ou tel sujet auquel je n'avais pas pensé. Mais moi aussi, je vais aller le repousser dans les retranchements. Je vais lui demander pourquoi il me parle de ça. Et ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où ça devient, cet outil-là, avec toutes les données qu'il y a derrière, peut devenir beaucoup plus intéressant. Et donc, pour revenir sur la paresse, là, vous avez passé 4 heures sur un truc que, normalement, vous faisiez en 5 minutes.
Ouais, c'est un peu comme sur le site de la SNCF. On met 4 heures alors qu'avant on allait acheter un billet de train, à la limite on faisait 10 minutes de queue. Mais c'est vraiment aussi un des aspects de la société du numérique, c'est qu'effectivement tout ce qu'on fait est extrêmement chronophage. Je vous prie de m'excuser pour cette comparaison qui est peut-être relative à une expérience assez personnelle. Alors, si vous avez des questions, je vous prie de vous signaler, comme ça on va passer assez vite aux questions, puis après moi j'en aurai d'autres. Et en attendant que vous vous signalez, moi, je voudrais quand même vous interroger sur un point tout simple. Est-ce que face à cette société donc, du numérique avec une intelligence, des outils de l'intelligence artificielle qui vont être de plus en plus présents, il faut commencer par apprendre à faire à travailler de manière traditionnelle. Je m'explique. Est-ce qu'il faut commencer par apprendre à chercher dans un dictionnaire physique en connaissant bien l'ordre alphabétique soi-même? Est-ce qu'il faut commencer par demander aux enfants de lire en entier des articles de journaux traditionnels ou écouter une émission de radio, par exemple? Est-ce qu'il faut maintenir en fait des apprentissages tels qu'on les a pratiqués par le passé, qui repose sur des supports peut-être plus physiques, plus circonscrits et des instructions plus simples? Est-ce que ça doit être un présupposé, ou est-ce que tout de suite on fait rentrer les outils numériques et ceux de l'intelligence artificielle dans le jeu? Qui veut répondre? Valentine? Favel Capoyan, parce
que... Oui, alors moi c'est mon avis personnel, hein, c'est que c'est pas possible d'enseigner sans prendre en compte les usages. Donc partir de ce qu'ils font, et puis après, pourquoi pas, je partirais dans l'autre sens, hein, partir de ce qu'ils font, puis après les emmener à lire, à aller dans le dictionnaire. Voilà, donc j'irais plutôt dans l'autre sens, parce qu'effectivement, si d'entrée de jeu, on leur dit on va utiliser le dictionnaire, ça marche pas, ça n'a pas de sens pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, effectivement, quand ils ont mis un certain nombre de temps à trouver une définition qui n'est pas la bonne, qui ne va pas, ils se rendent compte qu'aller dans un dictionnaire, c'est plus facile, comme on disait tout à l'heure, hein, et qu'il y a un gain. Donc voilà, je partirais plutôt comme dans ce sens-là.
Mais ça fait partie du chemin.
Ça fait partie du chemin, ça dépend des compétences que l'on souhaite développer derrière. Et puis ça dépend des contextes, des usages numériques. On commence à avoir maintenant un bon retour sur des expérimentations scientifiques qui nous donnent des idées précises sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, par exemple en question sur l'apprentissage de la lecture, où on se rend compte que tout ce qui va être fiction sous format numérique, par exemple, c'est très 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 compliqué, hein. Bon, déjà lire c'est compliqué, lire sur écran c'est encore plus compliqué pour un élève, vous voyez au niveau de la métacognition tout ce que ça demande en termes de navigation, en termes de lecture, en termes d'analyse, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc très concrètement, l'amener à lire un ouvrage papier en littérature jeunesse, c'est pour lui plus facile, ça c'est clair, précis. Après, pour la recherche documentaire, les rapports scientifiques sont plus mitigés en disant des textes courts, etc. Il y a de l'appréhension qui est plus facile, il y a souvent le multimédia qui va aider à la compréhension, ce qu'on n'a pas forcément des ouvrages papier, par exemple. Donc je ne serais pas systématique à chaque fois.
Étienne Millien.
Moi, je partage en partie votre analyse. En tant qu'ancien journaliste financier, où je parlais des entreprises cotées, le marché a toujours raison. Enfin voilà, l'usage effectivement est déterminant. On peut pas dire aux élèves, ah maintenant c'est mal ce que vous faites. Tout de même, ils le font. Ils vont sur Instagram, donc il faut qu'on parte de là, c'est certain. Et c'est par Instagram qu'ils vont s'informer. Mais d'ailleurs, moi, je suis très surpris lorsqu'on les rencontre. Ils s'informent beaucoup, ils consomment énormément d'informations, ils consomment de l'information. Et on en reviendra peut-être à la question de qu'est-ce que c'est que l'information, c'est peut-être la question centrale à laquelle on doit les exposer. Néanmoins, sur les usages, et c'est là où l'intelligence artificielle est quelque chose de... Enfin, c'est encore un champ à explorer. Je vous disais tout à l'heure, on peut s'en servir pour la création de contenu dans les médias. Un champ qui est déjà bien travaillé, c'est celui de l'exploitation des archives. D'accord, vous avez aujourd'hui la presse régionale, il fête ses 80 ans, dont toute créée après la Seconde Guerre mondiale avec l'urgence de l'information et du retour à la liberté faisait qu'on a oublié la poésie. Donc ça s'appelle Ouest-France à l'Ouest, Sud-Ouest dans le Sud-Ouest, etc. Vous voyez, on voit où ils sont. Tous 80 ans, tous des archives, tous publiés 350 jours par an. Vous avez aujourd'hui pour Sud-Ouest, j'ai calculé, 18 800 exemplaires en archives avec un volume qui représente à peu près la moitié ou les trois quarts d'un roman poche par jour. D'accord. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de textes à exploiter qu'on n'exploite pas encore et que les modèles d'intelligence artificielle générative vont nous permettre de sortir. Rien ne nous empêche de rajouter un paramètre supplémentaire dans l'équation et de demander de formater des contenus à partir des archives pour raconter l'histoire du village, de la ville, de la région, etc., à destination de publics d'élèves qu'on pourrait retrouver dans une bibliothèque ou pour le monde scolaire. Tout ça pour dire qu'il y a un champ profond à partir duquel, et c'est pour répondre à votre question, c'est quand même la préoccupation de base, c'est un problème de culture en fait. C'est pas qu'un problème d'éducation, notre histoire là. C'est quel rapport nous, citoyens, nos enfants, les générations futures, les générations précédentes, veulent et ont vis-à-vis du monde, à travers les intermédiations, ça a été évoqué tout à l'heure, en l'occurrence les médias. Il y a un intérêt pour la presse écrite, par exemple, notamment sur papier, parce que vous l'avez dit, sur écran, c'est compliqué. Il y a le temps long de l'attention. Instagram, on en a beaucoup parlé, TikTok, c'est super. C'est super si on segmente son attention sur 20-30 secondes, et j'en suis moi-même un utilisateur très, très heureux, mais conscient. Et l'éducation média doit permettre ça aussi. Quel citoyen on veut, quel rapport à l'information et au monde on veut, l'usage, la manipulation, le contact à l'information, l'écoute longue d'un podcast, par exemple, d'une émission de radio, sur France Culture ou autre, c'est des choses qui s'apprennent. L'éducation média, aujourd'hui, on est revenu à des choses de base comme ça et on doit le défendre parce que ça va très très vite et tout se mélange dans ces usages. C'est vraiment le choix profond qu'on doit faire.
Donc il y a vraiment quelque chose à défendre d'un rapport premier, peut-être aussi non filtré, aux connaissances ou à d'autres productions. Vous voulez intervenir sur ce point parce qu'on a une question, Romain Van Nudesden. Alors, avant la question.
Très rapidement, pour compléter.
J'avais dit que je faisais parler tout le monde.
sur les usages, c'est une évidence qu'il faut travailler et pour que les enseignants passent le pas d'accepter de ne pas savoir aussi bien éventuellement, et je mets des gros guillemets éventuellement parce qu'en fait ils ont eu des compétences numériques qui sont en général quand même bien meilleures que les élèves. Les élèves ont des très très bonnes compétences numériques mais sur des choses très précises. Par exemple, le TikTok, c'est assez génial pour réussir à appréhender déjà le fonctionnement d'un montage vidéo. C'est un début super. Dans une formation d'enseignant, évidemment, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tardivement. Mais du coup, les usages, connaître les usages, accepter d'être mis en danger, c'est quand même ultra difficile pour les enseignants. Et je crois que c'est aussi un des freins pour les enseignants pour travailler là-dessus. Mais pour revenir sur l'exemple du dictionnaire, moi, je reste persuadé qu'il y a une relation au tangible qui, dans l'apprentissage, et en particulier chez les plus jeunes, parce que la recherche dictionnaire, c'est encore une fois plutôt en élémentaire que ça commence. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils aillent d'abord chercher dans un dictionnaire et ensuite qu'ils découvrent les potentiels avec les difficultés que vous avez mentionnées de recherche informationnelle sur Internet, avec une lecture fonctionnelle et plein de choses qui viennent, les pop-up, les liens hypertextes qui viennent finalement phagocyter un petit peu la lecture de la définition que je cherche. Donc moi, je partirais plutôt du principe que chez les plus jeunes, on doit rester sur le dictionnaire, l'objet dictionnaire, et ensuite découvrir tous les avantages des dictionnaires en ligne qui viennent augmenter, et j'aimais bien la mention d'intelligence augmentée, c'est là le rôle du numérique de manière globale. C'est pas remplacer évidemment, mais c'est augmenter les capacités d'apprentissage, mais aussi les capacités de communication, de créativité, et c'est là tout l'enjeu du numérique, en tout cas c'est là où c'est plus intéressant.
Alors, on va prendre la première question.
Oui, c'est une question d'une personne qui nous suit en ligne et qui rejoint ce que vous étiez en train de dire. Aura-t-on le temps et les moyens d'accompagner véritablement les futurs citoyens quand les modèles évoluent à grande vitesse et que la compréhension de ces modèles est bien loin d'être acquise par les enseignants et les bibliothécaires qui peinent à suivre le rythme, justement ?
Sachant que le temps, c'est toujours une énorme question éducative, le temps de finir les programmes, le temps de parler des sujets d'actualité parfois très vifs et dont il faut bien discuter en classe, et le temps de faire ces éducations A qui sont très importantes. Qui veut répondre, Étienne ?
Une analogie stupide, mais on n'a pas besoin de comprendre le manuel technique complet d'une kangou pour pouvoir conduire et prévoir son départ en vacances ou son séjour de camping. Ça dépend ce qu'on veut en faire et pourquoi on veut utiliser un objet. Là, dès lors qu'il s'agit effectivement de ces outils qui transforment notre rapport par la multiplication d'informations et on ne voit pas trop où on est. Enfin, tout à l'heure, on a bien compris que c'est très compliqué, que ce n'est pas arrivé par hasard, que c'est fait par des gens très intelligents. Avoir la prétention d'essayer de comprendre, moi, ça me paraît insurmontable, évidemment, et je ne pense pas qu'on puisse l'avoir. Néanmoins, savoir à quoi ça sert et pourquoi on veut s'en servir, peut-être que ça nous permet de gagner un petit peu de temps et de trouver la bonne réponse. Ce n'est pas une réponse complète, mais faut juste se positionner peut-être par rapport à cette immense vague de choses qui nous arrivent.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Moi, je décide pas de l'ordre. Je vous laisse.
C'est vous qui décidez, Louise, qui parle d'abord.
alors, vous avez le micro dans la main, mais okay. J'oublie pas monsieur qui est derrière.
Je voulais vous soumettre, je trouve que c'est un bon endroit pour soumettre une idée que j'ai eue quand on m'a demandé à l'UNESCO de présenter un petit peu la question du numérique dans l'éducation, dont je ne suis pas spécialiste, donc je suis parti à froid en quelque sorte. Et j'ai proposé le concept suivant, le bilinguisme, en ce sens, au sens suivant, qu'il faudrait que d'un bout à l'autre de l'enseignement, les élèves, petits, puis grands, puis étudiants, apprennent deux façons de travailler. Une avec tous les outils du monde et une autre sans les outils. Alors les deux sont indispensables. Les outils sont indispensables parce que d'abord, ils augmentent et que tous nos gamins là vont grandir dans une société où ils seront omniprésents. Donc ils doivent connaître ces outils, leurs limites, leurs dangers, etc. Donc c'est indispensable qu'ils aient une culture numérique avancée. Mais aussi c'est indispensable qu'ils aient une culture sans instruments, en quelque sorte, pour apprendre ce que c'est que l'effort. C'est exactement ce que disait Louise à un moment, c'est-à-dire apprendre, par exemple, ChatGPT. On dit souvent, alors esprit critique, machin truc, mais ChatGPT, c'est formidable pour faire le premier jet. Parce que c'est tellement pénible d'aller des vagues idées qu'on a, etc., un premier jet, ensuite on peut travailler. Mais c'est, comme vous le disiez très bien, c'est le premier jet qui apprend ce qu'est la correspondance entre une pensée vague, une pensée qui se précise et un texte. Et ça, sinon pas une idée de ce que c'est, à mon avis, ils vont perdre des compétences intellectuelles absolument essentielles. Donc moi, je préconise deux régimes.
Pour moi, c'est une énorme question. Et pendant que le micro circule jusqu'à... Alors, il faut bien lever la main. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est que si on n'a pas soi-même éprouvé l'écriture, est-ce qu'on peut juger d'un texte, même à hauteur d'enfant ? Et la réflexion que vous faisiez, je pensais au survivalisme qui est très à la mode aujourd'hui. Alors, ça paraît rigolo comme ça, tous ces gens qui s'amusent à faire des feux dans les forêts, mais finalement, c'est la même chose. Est-ce qu'on est capable de vivre ou non, d'avoir une autonomie de pensée et de recherche sans des outils qui sont numériques, mais qui sont aussi électriques. C'est-à-dire qu'on est dépendant de ressources d'énergie dont on ne sait pas si on les aura toujours sous la main. Et finalement, c'est l'autonomie de la pensée, la grande question qu'il y a derrière, mais on va peut-être y revenir. Et si vous voulez bien vous présenter aussi. Bonjour.
Bonjour. me présenter, je suis juste je m'appelle Kevin, je suis juste bibliothécaire, je sais pas trop quoi
super.
Dire de plus.
Enchanté.
En fait, ça c'est intéressant, vous parliez de survivalisme parce que j'avais un peu cette image en tête aussi, justement l'idée qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'assez peu d'entre nous seraient capables juste d'aller un mois en forêt avec pas grand-chose et pouvoir survivre plus de quelques jours. Mais en même temps, ce sont des compétences dont on a aujourd'hui assez peu besoin. Et je me dis, pour les moyens d'information, en fait, il y a donc des moyens d'information qui sont apparus, ChatGPT, TikTok, peu importe. Moi, quand j'étais enfant, je veux dire, qu'on voulait en savoir un peu plus sur un sujet particulier, effectivement, soit c'était ouvre l'encyclopédie, soit débrouille-toi, en fait. Et finalement, en fait, on a tous ces moyens d'information et peut-être que simplement... Est-ce que simplement, on ne pourrait pas juste les confronter les uns aux autres, c'est-à-dire dire ChatGPT vous répondra à ces questions, mais faites attention à ceci. TikTok vous répondra, mais faites attention à... Enfin, je suis très prudent avec TikTok parce que c'est souvent une personne qui va vous donner son avis. Et donc, faire attention à ça. La presse aussi, M. Millien l'a dit, la presse parfois se trompe et être capable de regarder ça aussi avec... Considérer qu'il y a une information qui est produite en travail, avec un vrai travail d'information, mais qui peut se tromper parfois. Et poser en fait ces mêmes questions pour finalement tous les moyens d'information, savoir les hiérarchiser, savoir les confronter les uns aux autres.
Est-ce que ça vous inspire réflexion ou des réponses ?
Oui, mais enfin, ça rejoint un peu la question qui a été posée par sur Internet, ça veut dire que on peut pas multiplier les approches en fonction des nouveaux outils et c'est un peu sans fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et même effectivement, en tant que professionnel, vous pouvez pas, même si on vous dit évidemment, hein, faut tester, voilà, mais vous n'allez pas pouvoir devenir un expert de toutes les IA génératives et donc faire la liste de tout ce auquel il faut faire attention ou des procédés techniques. Voilà, hein. Il va falloir trouver des façons d'acquérir des compétences qui soient des compétences transversales. Donc pour les professionnels, la question de l'innovation et aussi de la question de la certitude, hein, dont vous parliez, dans le positionnement. On voit que c'est des choses qui sont intégrées dans les postures métiers. Côté des élèves, il y a plein, plutôt que leur dire attention, chaque outil a ses biais, etc., ce qui est effectivement des façons de faire. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question, alors ça rejoint l'idée la thématique effectivement de comment survivre dans un monde numérique, par exemple. On peut se poser des questions, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des émotions, mais aussi des habitudes. Ça veut dire que concrètement, on voit qu'on prend des habitudes, hein. En 5 minutes de pause, on regarde son téléphone, on met forcément le GPS alors qu'on sait où on veut aller, on regarde la météo plutôt que regarder le ciel, vous voyez ce que je veux dire, et on va utiliser ChatGPT pour poser une question où en fait à la fin on va se dire ce qu'il me dit, globalement c'est ce que je pensais. Donc il y a toutes ces questions d'automatisme qui s'imposent à nous, et c'est pour ça que je pense que faut vraiment aussi accompagner les élèves sur prendre conscience de comment ils fonctionnent, quelle place ça prend dans leur vie, quels sont aussi les impacts, et qu'ils reprennent de l'autonomie par rapport à tout ça, comme nous d'ailleurs, hein, je dis ils mais nous de la même façon, hein. Qui me semble aller un petit peu au-delà de la démarche technique, et aussi peut-être des entrées pour aller du côté des enjeux. On a parlé des enjeux économiques, mais je pense que c'est très intéressant. Mmh. Et la question des enjeux aussi, idéologiques, de démocratie, mais qu'il faut aborder en second temps, je dirais, hein, ils ont compris la question de l'impact et du pouvoir de ces outils numériques sur leur vie quotidienne.
Évidemment qu'on va revenir aux enjeux éthiques. Je prends la question. Du coup,
Bonjour, je suis Zoé Schmitt, médiatrice numérique à la médiathèque Malakoff Pabon-Neruda. Merci beaucoup Valentine pour votre réflexion sur le fait que justement l'IA, ça pose la question justement de la démarche. Effectivement, à l'école, on peut peut-être plus évaluer la démarche et justement pour les professeurs, effectivement, utiliser les quiz pour gagner du temps, etc. Mais ça, du coup, cette partie évaluation en bibliothèque, on l'a pas vraiment. Moi, je voulais savoir quelles préconisations vous auriez pour justement des médiateurs numériques. On pourrait justement sensibiliser les usagers à l'IA. Est-ce qu'il faut justement, par exemple, proposer des ateliers sur comment décoder un livre technique, des ateliers justement pour les jeunes, ou enfin voilà, est-ce que vous avez des idées de choses qu'on pourrait mettre en place en bibliothèque? Merci.
Alors oui, des idées, j'en ai, mais la question, c'est l'éducation média à l'information, c'est pour les jeunes, mais pas que. Donc donc je pense aussi que vous avez un rôle important parce qu'il y a un gros trou dans la raquette, hein, sur la question de l'éducation média à l'information. Sorti des radars du système éducatif, et entre parenthèses, il y en a qui sortent très tôt, hein, et qui se retrouvent à ne pas du tout d'avoir d'accompagnement là-dessus. Donc il y a plein d'approches possibles. Il y a des approches qui vont être par exemple autour de la fiction, j'ai testé avec des étudiants, mais d'essayer les IA génératives à travers un roman qui a été lu, se centrer sur un personnage, essayer de reproduire l'image, et ils se rendent compte, là, ils utilisent différents outils, hein, et on se rend compte de ce que ça produit, de ce que ça fait, et tout d'un coup, des représentations que l'IA a, et des stéréotypes qu'il va poser, par exemple, hein. Alors, ça peut être des choses comme ça, ça peut être aussi travailler sur, là, c'est ce que disait mon voisin lorsqu'il disait qu'il avait mis un rapport dans différentes IA et qu'il voyait des résultats qui n'étaient pas les mêmes, la question des sources, se reposer la question de pourquoi il choisit ces sources-là et pas d'autres, donc ça peut être des ateliers, ça peut être des ateliers pratiques où en fait concrètement on teste des choses, on tente des choses Et puis, je pense aussi que les bibliothèques, au-delà de l'atelier, elles ont une grande place dans le MI autour de tout ce qui va être mis à disposition de ressources, conférences, débats, etc. Qui n'ont pas leur place, enfin pas beaucoup en milieu scolaire. On peut faire un peu des expos au CDI, mais c'est un peu limité. Donc je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là. Et entre autres, il y a beaucoup de choses en littérature de jeunesse sur le sujet, et aussi en BD. Donc plein de fonds à explorer pour sensibiliser, interroger, discuter autour de ce que c'est, et pas exclusivement sur la question des ateliers.
Et si je peux me permettre de prolonger la réflexion, parce que j'ai eu l'occasion d'animer des rencontres autour de la lecture et de comment on fait lire aujourd'hui les enfants et les ados et comment on encourage cette pratique qui serait plus une pratique individuelle, mais peut-être avoir comme quelque chose de plus collectif. Les bibliothèques sont des endroits de rencontre où on peut parler des livres qui deviennent donc des objets sur lesquels on peut débattre. Alors ça, c'est très éducatif, et c'est aussi presque de l'éducation aux médias. Et finalement, ce qui compte, c'est la conversation qu'on va avoir autour d'un sujet qui nous intéresse, une conversation motivée parce que le sujet en lui-même est très central, mais aussi motivée par sa propre expérience et donc documentée. Et de cet échange naît une forme peut-être de savoir, mais aussi l'intérêt d'aller et de fréquenter les médiathèques, par exemple.
Sur les bibliothèques, nous, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Un, parce qu'il y a un gros paradoxe de l'éducation média dans la presse, c'est qu'on s'est intéressé au public jeune, qui n'est pas un public qui consomme directement de la presse d'information en général. Presse jeunesse, oui, mais globalement, je n'ai toujours pas vu d'enfants de 12 ans courir pour aller s'abonner au Parisien. Enfin, si je vous en voyais, vous me dites, mais bon. Et pour autant, c'est là où on a concentré nos efforts, parce que c'était important pour les générations d'après. Néanmoins, il y a un décalage, et on a aujourd'hui des trentenaires, des cadras, des quinquas, qui sont passés complètement à côté de ce rapport à l'information. Et on en voit les résultats merveilleux dans la qualité des rapports humains aujourd'hui et de la discussion, notamment dans les commentaires sous les articles. Enfin, le degré de violence et d'irrespect est devenu très inquiétant. Et donc, nous, on se préoccupe vraiment de cette question de comment est-ce qu'on parle aux adultes, comment est-ce qu'on discute et comment est-ce qu'on peut les aider. C'est pas pour leur vendre des abonnements, c'est parce qu'on veut une société dans laquelle il y a une presse libre et indépendante, et on pense que c'est le modèle qui nous conviendrait le mieux pour l'instant. Donc on développe par exemple des ateliers autour de prise de parole sur l'information pour des adultes. Pendant le Covid, on avait le droit de nous balader quand tout le monde était enfermé chez soi pour aller chez les gens et faire des articles. Et on a vu des mamans avec un téléphone portable et trois ados qui soi-disant devaient faire les devoirs sur le téléphone portable et donc étaient complètement, comme ça, en une journée, complètement déconnectés du reste du monde. Ces gens-là et ceux qui sont isolés économiquement, socialement, géographiquement, des discours sur l'information, eux, ils vont se prendre, comme tout le monde, Bard intégré à la barre de recherche de Google, les réponses générées par l'intelligence artificielle immédiatement, sans avoir le code pour comprendre effectivement que c'est une forme de réponse. Ah oui, c'est très bien écrit, oui, ça me parle à moi, ouais, c'est super, ça me touche effectivement, parce qu'effectivement, c'est formulé comme ça, et on n'attrape plus la raison, on attrape l'affection, et ils sont encore plus désarmés que les autres. Et là, il y a un véritable enjeu d'éducation média par rapport à ça, en termes d'égalité. Ça, c'est... Et je pense que les bibliothèques sont peut-être un des endroits où on peut résoudre ce problème, ou en tout cas chercher des solutions.
Avec un travail sur le public, mais je pense que vous le voyez bien dans la ville où vous travaillez, un travail pour faire venir un public très divers, monsieur. J'appelle tout le monde monsieur ou madame. Alors vous. On vous écoute.
Oui, bonjour, moi je suis documentaliste à la Cour des comptes. J'ai une question parce que je trouve un peu vertigineux le fait de cette éducation permanente au doute. C'est intéressant parce qu'il faut leur apprendre les codes et puis à ne pas percevoir une information comme quelque chose de vrai dans l'absolu. Donc nos jeunes, mais aussi les adultes. Sauf qu'à un moment, on peut tout en permanence remettre en question et notre métier, alors moi en tant que documentaliste par exemple, parce que j'ai travaillé à l'université avant d'être à la Cour des comptes, c'est de rester nous-mêmes en questionnement tout le temps sur est-ce que l'information que je donne, elle est objective ? Est-ce que derrière, il n'y a pas une opinion ? Est-ce que vous parliez tout à l'heure du rapport de la Cour des comptes ? Il vaut mieux lire la synthèse de la Cour des comptes.
Oui, alors j'ai failli le dire, il y a toujours des synthèses.
Voilà. Il vaut mieux lire la synthèse de la Cour des comptes que lire les papiers sur les trois questions qui seraient les plus fondamentales du rapport. Mais soi-même, c'est vrai que c'est une question qui, socialement, peut nous perturber, cette remise en cause permanente du sachant, parce qu'il y a des gens qui, comme monsieur qui s'est exprimé tout à l'heure, on voit que le travail pour écrire 400 pages sur l'IA, ça sort pas de nulle part. Il y a un travail universitaire de recherche, etc. Donc on peut avoir confiance quand même à un moment en ce qu'on lit encore. Et ça me fait peur, en fait, cette idée de remettre en permanence en question. Oui, il faut s'interroger, mais il faut aussi essayer de conserver la confiance en les sachants, c'est parce qu'il y en a, et comment justement on peut encore éduquer les gens au fait qu'il y a des sachants et que tout n'est pas systématiquement à remettre en question.
Vous parliez de questions vertigineuses, la vôtre est pas mal. On a abordé la question de la légitimité, qui est autre chose que la vérité, mais on sait que moi ce que je dis, quand je me permets de répondre un petit peu, parce que je fais aussi de l'éducation aux médias, moi, ce que je dis aux élèves, c'est que la parole de quelqu'un qui a travaillé 10 ans sur un sujet et l'opinion d'un présentateur télé, c'est pas exactement le même poids. Que même si on peut tout à fait recevoir avec un esprit critique la parole du chercheur qui a travaillé très longtemps sur un sujet, il a une méthode, par exemple la méthode historique, qui est assez facile à expliquer à un élève, et que cette méthode est une forme de garantie du sérieux de sa démarche et peut-être de ses conclusions. Mais on sait que... Alors après, je pense, moi, qu'on peut tout de suite introduire l'idée de doute dans l'éducation parce que c'est une idée profondément démocratique et qui incite quand même à la pensée et que c'est à ça qu'on éduque aujourd'hui, puisqu'on ne dresse pas les enfants comme des intelligences artificielles et que finalement, c'est toujours quelqu'un qui raconte une histoire et que c'est ses qui a écrit la guerre des Gaules et c'est les Romains qui ont gagné et c'est la trace écrite qu'on a etc etc et c'est souvent l'exemple que je donne aux enfants plus petits mais que nous on a fini par faire Astérix en France pour offrir une forme de réponse etc. En tout cas évidemment que la Cour des comptes et ça je sais pas s'il y a eu des rapports sur les bibliothèques mais en tout cas il y en a eu sur l'enseignement, évidemment que la parole par exemple de la Cour des comptes est bien aussi critiquée et est-ce que c'est mettre en doute, voilà, mais que peut-être que ça, je pense que c'est au contraire une dimension à laquelle il faut éduquer les enfants en leur disant ça ne veut pas dire qu'on doute, ça veut dire que toute parole, elle émane d'une personne qui pense peut-être quelque chose. Mais je pense que ne pas le dire, ce serait plus une erreur qu'autre chose parce que on n'est pas dans la croyance.
Et puis, il y a la vertu de la transparence, notamment en éducation média. On doit expliquer pourquoi, comment se crée l'information, etc. Qu'un rapport de la Cour des comptes, alors j'ai fait exprès de ne pas prendre la synthèse, c'était pour voir justement. Et j'étais surpris d'ailleurs par les biais de traitement. Enfin, faites l'exercice, vous verrez justement qu'on n'a jamais la même réponse et ils sont connotés. Et d'expliquer voilà, que lorsqu'un journaliste va faire un compte-rendu conseil municipal et on dit « Ah bah tiens, le gymnase de la ville, il va coûter deux fois plus cher », il est allé parler aux gens, il a fait son travail, etc. Plutôt que de l'avoir entendu dire au café et autres. Mmh. Mais ça, il faut l'expliquer, c'est la base. Et il ne s'agit pas de... je suis entièrement d'accord, ce n'est pas parce qu'on doute qu'on remet complètement en cause. Au contraire, c'est pour se questionner. Mais vous avez raison. Dans l'ensemble, il faut faire très attention à bien distinguer entre le respect de la parole de l'expert, le travail des artisans qui vont justement transformer les choses pour les rendre accessibles, et puis ceux qui ont une opinion qui vaut autant que celle du voisin.
Moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faut apprendre à douter. Parce que le doute, c'est vraiment le fondement de la démarche scientifique, par exemple. Si on prend tout pour argent comptant, il n'y a plus de recherche. Il faut vraiment le prendre de cette manière-là. Après, je comprends tout à fait le côté vertigineux, en effet, que vous avez pu décrire et se dire que on est tous, c'est un mouvement sociétal de douter de tout et il faut le faire et c'est là où le rôle de l'EMI est primordial. Il faut le faire accompagner, il faut le faire en conscience de tous les enjeux qui sont derrière. On en On en a parlé un petit peu, mais toutes ces questions de tous ces logiciels qui sont présents dans ma vie privé comme professionnel ou autre, ils ne sont pas là par hasard. Il y a des avantages. On a tendance à dire si c'est gratuit, c'est toi le produit ou des choses de cet ordre-là. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Et cette conscientisation de ce qu'il y a derrière les outils, derrière des pratiques, là, c'est un des rôles primordiaux des enseignants. Et ils le vivent aussi en tant que remise en question de la place du sachant, puisque ça, c'est fini pour les enseignants, ça.
Et c'est là où la question éducative, et je disais vertigineuse, à votre endroit est extrêmement profonde. Ça veut dire, c'est quoi la place de l'adulte, la place du sachant? Est-ce qu'on est prêt, nous, à être des professeurs, parents, adultes devant des plus jeunes, à être mis en doute? Ou est-ce que ce n'est pas être mis en doute que de dire que tout ce qu'on dit n'est pas la vérité pure, mais ce qu'on veut faire passer? Et c'est quand même pas la même chose. Mais c'est vrai que ça interroge la position de l'adulte dans tout un tas de situations. Et c'est une énorme question éducative. Ça fait longtemps qu'elle est soulevée. Hein. Je ne vais pas vous demander de relire Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui, mais évidemment, ou des ouvrages de l'éducation nouvelle, mais évidemment que cette question, elle travaille la relation éducative depuis longtemps et voilà, toute la société. Mais le doute et la légitimité, bon, il y a peut-être des différences. Bon, on a toujours envie de discuter de cette question. Monsieur ou la personne qui a levé la main, à qui on a donné le micro. En plus, on est un peu ébloui. Donc
bonjour. Je m'appelle Gladys et je travaille en médiathèque. Je voulais savoir si vous avez déjà rencontré des professionnels qui étaient opposés idéologiquement et intellectuellement à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et si c'était le cas, ou si c'est pas le cas, mais en tout cas, quel discours vous auriez vis-à-vis de ces professionnels qui sont pas forcément à l'aise ou qui sont catégoriquement opposés en fait à cet usage?
Vous parlez bien des professionnels de médiathèque,
enseignants, bibliothèques.
Il y en a plein.
Voilà, enseignants, bibliothèques, voilà.
On en a, ça veut dire que ça se traduit par le fait que, ce que je disais tout à l'heure, hein, quand vous avez des devoirs d'élèves qui sont faits brutalement avec ChatGPT, là, on annule leurs devoirs et puis après on leur demande de venir faire le travail sur table, voilà, sans ordinateur, de façon à être sûr que c'est eux qui le font. Comme on a eu d'ailleurs à un moment donné, hein, je vous dis tout ça, c'est des choses dans la continuité, hein, comme on a eu à un moment donné avec le développement des moteurs de recherche, des enseignants qui disaient vous faites que de la recherche papier, et vous me rendez un exposé papier, voilà, manuscrit, de façon à être sûr qu'il n'y avait pas eu du copier-coller. Donc, voilà. Bon, on se rend compte assez rapidement de la limite de ça, et eux aussi s'en rendent compte. Pour autant, c'est intéressant, hein, à un moment donné aussi, voilà, pour des contextes très précis, de demander à l'élève d'être totalement autonome avec ses propres pensées et sa propre écriture sur des choses. Voilà. Donc oui, il y en a plein, mais bon, on voit bien que si vous voulez, ils mettent en place des systèmes voilà, pour essayer de contrecarrer tout ça, mais que assez rapidement, ces systèmes sont mis à mal. Alors, ceci dit, les systèmes qui sont mis à mal, il y en a plein d'autres. Enfin, je veux dire, voilà, l'IA, effectivement, des élèves se font aider de l'IA pour faire leur exposé. Ils se font aussi aider de leurs parents, ce qui crée d'autres inégalités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, voilà, il y a tout ça qui fait que peut-être qu'il faut qu'ils se rendent compte, en fait, hein, du coup, de leur positionnement par rapport à ça et comment ils jouent. La plupart des positions très fermées, elle vient effectivement de ce qu'on a dit beaucoup là. Ça veut dire que ça remet en cause, ça bouscule, ça crée effectivement un sentiment de vertige. Et on voit bien effectivement que, et ça fait un petit moment que ça roule déjà ces questions, hein, la question de notre rôle, autant en tant qu'enseignant qu'en tant que personne de bibliothèque, de tout ce qui va être la médiation intellectuelle et culturelle et tout ce qu'on veut. Tout ça, on se rend bien compte qu'on est sur des postures qui sont en train de changer. changer, qui sont en train d'évoluer et qu'on doit intégrer, nous, ce qu'on disait, de fait de plus, de pas être performant dans tout, de pas arriver à tout gérer, mais d'avoir la capacité d'accompagner, de se former, enfin d'autres choses, hein, qui effectivement, pour en revenir à ce que disait le conférencier ce matin, hein, sont aussi la plus-value humaine. Donc,
Dans le journalisme, il y a eu une première en France, une première offre de poste spécifique de journaliste pour créer des contenus autour de l'IA, et un projet du groupe EBRA, qui est un groupe de presse qui a tous les titres de l'Est de la France, pour produire des contenus à partir de l'intelligence artificielle générative. Et les syndicats de journalistes sont montés au créneau, le projet est arrêté pour l'instant. Parce que, et c'est exactement la même logique, il y a besoin de l'humain dessus, c'est pas juste la transmission de contenu, il y a une valeur ajoutée humaine qui est nécessaire et qui passe par l'apprentissage, etc. On a donc ces réflexes qui sont pas protectionnistes, mais qui sont un peu conservateurs dans l'esprit, et en même temps qui sont aussi mus par l'absence pour l'instant de réflexion globale sur les enjeux que ça représente. Enfin, c'est comme la même conversation que ce matin, et qui vont faire nourrir la conversation, même s'il y en aura de plus en plus, et c'est une marche en avant inéluctable dans notre industrie, je parle.
Et pour prolonger la réflexion, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera aussi intéressant d'enseigner avec des élèves qui utilisent l'intelligence artificielle pour répondre et qui sont... est-ce que ce sera peut-être plus compliqué parce qu'il faudra soi-même connaître les ressources qu'ils ont utilisées? Comme moi, je trouve que journalistiquement, ce n'est pas ce qui m'intéresserait le plus que de produire du journalisme de data. Alors, les résultats sont souvent géniaux, hein, mais se plonger dans des résultats produits par une intelligence artificielle qu'il faut analyser, comprendre, revenir à la source, c'est ce qu'on a dit, c'est extrêmement chronophage. Bon, bref, est-ce que ça ne risque pas aussi d'assécher la relation éducative et de la rendre... Vous avez l'air de douter, Étienne, mais du coup, je vais d'abord poser la question à Ronan Van Doudesden avant de reprendre une question du public, et des deux questions du public, pour savoir si, du point de vue de la pratique, hein, du travail, dans les médiathèques ou dans les classes, est-ce que c'est, voilà, ça va changer, mais est-ce que ce sera peut-être moins bien?
Alors là... Je crois que autant l'intelligence artificielle peut parfois faire des préconisations et des prévisions, je crois que pour nous c'est difficile, enfin en tout cas pour moi c'est difficile de prévoir quoi que ce soit à ce titre-là. Par contre, ce qui est certain, et c'est aussi pour aller dans le sens, pour vous répondre madame, ce qui est certain, c'est que la société dans laquelle nous vivons là, actuellement, elle est numérique. Où elle est en tout cas en grande partie numérisée, elle nous augmente, on le disait. Là, j'ai un ordinateur, ça c'est du numérique aussi. Enfin, tout ce que j'ai en face de moi, et j'imagine qu'il y a autant de téléphones portables que de personnes qui sont en face de moi aussi. Donc on en a tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il faut réussir à accompagner tout le grand public. Et évidemment aussi les enseignants, les bibliothécaires ou les personnels de médiathèque qui ne veulent pas passer le pas, leur dire... Tu es en train de préparer ou tu accompagnes, tu fais de la médiation, mais finalement pour un monde qui n'est pas celui auquel tu prépares, si tu ne veux pas y intégrer quoi que ce soit en termes de numérique. Et ça me semble, c'est là le très très grand enjeu. Mais évidemment chez les enseignants, il y a un nombre important, enfin je ne sais pas d'ailleurs, on ne saurait pas le calculer, mais il y en a qui sont éloignés du numérique, certains par posture idéologique. Et alors ceux-là, pour les accompagner dans une réflexion qui leur permet de dire il faut passer à autre chose, et tout en y doutant toujours, hein, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire il faut faire du numérique pour faire du numérique, donc ceux-là, on aura probablement du mal. Et puis il y a ceux qui ont, je le disais tout à l'heure, mais ceux qui en ont peur parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise et accompagnés. Et c'est là où, par contre... je crois qu'on a un gros enjeu dans l'éducation nationale et dans l'éducation de manière globale d'accompagnement du grand public à sauter le pas, oser, et aussi oser se planter. Et oser se planter face à un élève, face à un groupe élève, c'est difficile. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, c'est un des, en général, les enseignants disent si j'y vais pas, c'est que j'ai peur que la technique ne me suive pas. C'est même pas un problème, moi, de gestion, mais c'est que ça plante. Et ça fout en l'air, pardon pour le terme, mais toute la séquence pédagogique. Et c'est là où il y a des... c'est encore une question de posture, finalement.
Ouais, c'est vrai que les questions techniques sont hyper brûlante dans les établissements, parce que c'est souvent à ça qu'on se heurte. Je prends les questions suivantes. Ouais.
Bonjour, merci. Donc je me présente, je m'appelle Marvin, je suis responsable numérique pour les médiathèques de Bobigny. Donc je suis aussi partisan d'ailleurs de l'apprentissage par l'échec, je trouve ça très intéressant. Par contre, c'est vrai que au niveau des IA, je m'étais posé la question donc, pour améliorer l'accueil, on est spécialisé dans le FLE à Bobigny, et on a du coup des groupes de primo-arrivants, et on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser une IA pour traduire. Alors, on ne l'a pas encore fait, j'ai déjà testé ChatGPT de mon côté pour créer un code sur une microbyte pour contrôler des servomoteurs. Je me suis rendu compte qu'il s'est trompé, alors que c'est un code qui est quand même très simple à faire. Je ne dis pas qu'il ne fait pas des choses incroyables hein, comme IA, juste que c'était sur une interprétation d'une valeur, en fait, il a mal compris. Et je me dis que s'il a mal compris ça, s'il a mal interprété quelque chose, en termes de traduction, ça peut être très compliqué aussi. Et est-ce que du coup, ce que je voyais comme solution, ça peut pas devenir un problème en termes d'accueil? Voilà, donc je me posais la question aussi de ça, effectivement, est-ce que c'est prêt en fait? Est-ce qu'on peut commencer à utiliser ça? Du côté du public, ça m'inquiète un peu aussi. Voilà, je suis partisan, je suis très partisan des IA, mais voilà, je me demande si c'est bien prêt pour qu'on puisse utiliser ça avec les usagers, et est-ce qu'on peut considérer les usagers comme un laboratoire, en fait. Voilà, merci.
Est-ce que vous...
Non, je sais pas.
Sur les... Moi, j'aime bien l'idée de proposer aux usagers de participer hein, au test. Faut pas les prendre par défaut. L'exemple que vous citez est hyper intéressant. Il y a plein de tests qui ont été faits dans la presse, notamment pour adapter alors, sur du code et puis sur de la traduction de contenu. Et là, c'est plus propre à la traduction linguistique. La progression, enfin la vitesse de progression et d'amélioration est spectaculaire. Voilà. Et c'est le seul truc que j'ai à dire là-dessus, c'est que peut-être que ça ne marche pas maintenant. Plus on essaiera, plus ça va s'améliorer. Et plus on arrivera à quelque chose de tangible et d'intéressant. Petite parenthèse pour la presse et sur les langages, les modèles de langage de grande taille et qui nourrissent l'IA générative. Aujourd'hui, les titres de presse signent tous des clauses pour éviter que leur contenu soit pompé systématiquement pour des questions de droit d'auteur, droit voisin, etc. Mais ce qui va changer aussi la capacité de la machine peut-être à recréer du texte à la manière d'eux. Donc peut-être que cette vitesse d'amélioration, elle peut aussi fluctuer dans le temps. Et je pense que ça dépend de quel type de traduction vous faites et sur quel modèle. Mais si vous faites du français à l'anglais aujourd'hui, je citais l'exemple de Grammarly tout à l'heure, c'est spectaculaire.
Juste sur l'idée de... Vous avez dit usager...
Usager laboratoire, peut-être que justement, c'est un peu aussi ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, là, c'est que du coup, effectivement, on ne peut pas se prendre le risque hein, de traduire, de proposer quelque chose qui aurait été mal traduit, ça peut être source de problème, mais peut-être arriver effectivement avec une autre démarche qui est celle de voilà un embryon de traduction et essayer avec les usagers d'essayer d'affiner ça, parce que vous, évidemment, vous n'allez pas pouvoir corriger. Ce que vous donne le traducteur, hein. Enfin, en tout cas, à part si vous êtes spécialiste de la langue, mais j'imagine que pour les primo-arrivants, il y en a de plein de pays différents, de plein de langues différentes, donc peut-être que ça peut être ça peut être l'objet de aider-nous, voilà, on a une base, et puis ben, ensemble, on va essayer de faire un livret d'accueil qui soit dans différentes langues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de changer de posture. Voilà.
Ok. Oui.
Il faut aussi mesurer le bénéfice-risque, c'est-à-dire que le bénéfice, là, c'est quand même qu'il y ait une traduction Alors, certes pas génial, mais qui permet peut-être justement de dire, bah, regardez comment mon truc est pas top. Et si on y travaillait ensemble, je trouve l'idée vraiment, vraiment super. Le risque actuellement, c'est que vous soyez pas capable, vous, personnel de bibliothèque, de répondre et d'accueillir ces personnes-là. Donc finalement, est-ce qu'on gagnerait pas quand même réussir à les faire rentrer dans l'établissement, dans la médiathèque, même si c'est par le biais de cette erreur-là, plutôt que bah, tout est en français ou tout est dans une langue et personne ne peut me répondre, donc je n'y vais pas.
Parce que c'est un vieux modèle aussi de la connaissance dans les univers numériques. On peut se référer à Wikipédia, c'est la participation. Et que c'est aussi quelque chose qui a été produit grâce à de l'intelligence, pas du tout artificielle pour le coup, mais collaborative, et qui est disponible aujourd'hui grâce au numérique, mais qu'on peut peut-être, je la trouve intéressante, cette proposition, c'est-à-dire changer de posture. Et en ce sens-là, et ça répond aussi à la question de madame sur, enfin, de la Cour des comptes, c'est votre nouvelle particule, sur le doute. C'est-à-dire que, voilà, on a cette réponse aussi que la collaboration peut s'avérer, alors c'est pas toujours le cas en fait sur Wikipédia, mais peut s'avérer fertile et donner à la fin une meilleure définition, une meilleure traduction, peut-être plus efficiente, plus proche de ce qu'attendent les gens aussi, parce que la traduction, ça peut être plein de choses, finalement que la proposition peut s'en trouver améliorée. Est-ce qu'il y a une autre question? Et je ne sais pas, Juliette, oui. Si on a le droit de dépasser, et de combien de temps?
Un petit peu, ça sera la dernière question.
D'accord.
Donc c'est une question d'une personne qui nous suit en direct à nouveau. Le fait d'avoir accès à un tuteur IA n'est-il pas justement un facteur de réduction des inégalités sociales?
Ah ben moi, je trouve que c'est une excellente question. Est-ce que vous voulez répondre, Renaud ? Renaud ?
Je dirais...
Vous êtes le plus proche de l'éducation nationale.
Oui, oui. Non, c'est évident, encore une fois, que ça peut gommer des inégalités. Mais là encore, on peut extrapoler aux questions du numérique, parce que l'IA n'en est qu'une petite brique, hein. Et on voit que, beaucoup d'études qui ont porté sur le sujet, il y a eu un allant, une espèce de croyance que le numérique allait résorber toutes les inégalités sociales, en tout cas la plupart des inégalités, de problématiques aussi linguistiques. Voilà. En fait, il s'est avéré que, certes, ça a pu amenuiser sur certains domaines, mais de manière globale, ça ne fait qu'accentuer les compétences. Donc les bonnes compétences en numérique, ceux qui se débrouillent pas trop mal en numérique, eh ben, ils continuent et ils développent encore plus. Et là, ce serait un petit peu le cas. Et ceux qui sont pas à l'aise avec le numérique le sont de moins en moins, en vivant en plus dans une société qui est de plus en plus numérique. Donc finalement, c'est pas aussi simple que ça, même si... Et ça doit être, par contre, je pense, quelque chose qu'on doit avoir en tête. Enfin, je dis « on », je ne suis pas du tout développeur d'intelligence artificielle, mais ça devrait être un des sujets, un des objets d'IA, aller dans ce sens-là, en tout cas, le viser.
Et c'est pareil que dans la vie physique, c'est la même chose quand on va traîner dans une bibliothèque, on cherche des livres, et ben on va faire appel à sa culture. Pour ce qui est de la circulation dans l'espace numérique, on a des énormes bulles de filtres. Moi, je pense que c'est un sujet d'éducation aux médias énorme. Je crois qu'on n'a pas trop le temps, Étienne Mignard, mais je donne un exemple personnel. Mon fils me dit, mais c'est génial, TikTok, je vois des contenus hyper intéressants, j'apprends plein de choses sur l'actualité, puis je vois des profs d'histoire, est-ce que tu savais que... Non, il me sort un truc super. Je regarde, ouais, effectivement, super prof d'histoire. C'est carrément de l'historiographie à portée de main pour un élève de 13 ans. Et je lui dis, mais t'es pas au courant qu'il y a une bulle de filtre et que tout le monde regarde pas ce que tu regardes? Il fait, bah, si, tout le monde peut le voir. Je fais, mais tout le monde ne le voit pas. Et en fait, c'était ça le trou dans sa raquette. C'était pas d'avoir accès à des connaissances, c'était de pas comprendre que ce qu'il voyait, c'était vraiment un menu très personnel. Et c'est pas comme le McDo, on mange pas A, B ou C. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que là, c'est l'enjeu d'éducation aux médias. Juliette, on est
juste arrêté. Sur l'IA générative, je suis désolé, mais il y a un mouvement qui est en train de se passer pour des questions que j'ai évoquées de droit d'auteur aujourd'hui, où sur des moteurs de recherche, on va enlever la source inidentifiable qui est, elle, génératrice d'informations sans le capital social ou le code culturel ou l'accompagnement. On va se retrouver tous devant une information. Si on ne sait pas d'où elle vient, on va se retrouver perdu tout autant. On a juste décalé un petit peu le problème. Donc oui, c'est pour répondre à la question, oui, c'est une aide.
On n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas la même culture.
La ressource est compliquée, d'où l'importance de l'éducation aux médias. Voilà.
Mais toujours. Et de l'éducation et la culture générale, la culture scolaire aussi est importante. On aurait aimé avoir encore plus de temps, mais je pense que c'était extrêmement nourrissant. Et merci beaucoup, merci pour la qualité de votre écoute et vos questions. On est obligé de conclure.
Merci à vous quatre, merci pour ces échanges. C'est l'heure de faire une pause. Alors nous reprendrons à 14h précisément. Donc merci d'être à l'heure.